Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique, et comme l'évangile du jour va parler de l'unité des chrétiens ensemble, je me suis dit qu'une belle manière de préparer ce texte était de vous parler un peu plus et des chrétiens, et des catholiques, et des orthodoxes. Commençons avec les catholiques, l'unité autour de Rome. Les catholiques forment la plus grande dénomination chrétienne. La foi catholique repose sur la Bible, mais interprétée à la lumière de l'Église, qu'on appelle la tradition, le magistère. Et au centre de cette tradition, il y a l'unité autour d'une personne, le pape, qui habite Rome parce qu'il est le successeur de Saint-Pierre et que Saint-Pierre est mort à Rome, le pape qui veille sur la doctrine, sur la communion des Églises. Les catholiques reconnaissent 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la confession, l'onction des malades, le mariage et l'ordination. Ces sacrements sont considérés comme des signes efficaces de la grâce et ils accordent une grande place à la Vierge Marie, aux saints. Pour les catholiques, la messe est le cœur de la vie, avec la croyance que, pendant la messe, le pain devient le corps du Christ. L'Église catholique insiste sur la dimension communautaire de la foi. Nous passons aux orthodoxes. Les orthodoxes, historiquement, sont les chrétiens d'Orient, même si maintenant ils sont relativement diffus à travers le monde. Ils partagent beaucoup de choses avec les catholiques. En fait, c'est simple, catholiques et orthodoxes sont relativement proches. La foi en la Trinité, la Vierge Marie, il y a même les mêmes 7 sacrements. L'importance de la Bible, mais de la Bible lue en communauté avec un magistère qui régule les interprétations. Ils reconnaissent même une certaine importance au pape, ce qu'ils appellent une primauté d'honneur, mais pas toute l'autorité du pape. Par exemple, ils refusent ce qu'ils appellent la primauté de juridiction. Pour eux, pour les orthodoxes, chaque église locale, comme celle de la Grèce, de Russie, de Serbie, est conduite par un patriarche, et que c'est ce patriarche qui dirige l'Église et que c'est ce patriarche qui est en communion avec les autres patriarches. Ce qui fait peut-être la spécificité des orthodoxes, c'est 1. Leur fidélité au Père de l'Église et au Premier Concile et 2. Une liturgie très ancienne, majestueuse, avec une richesse iconographique des chants, des encens. L'Eucharistie y est centrale, mais l'accent est mis sur le mystère et la beauté comme langage de Dieu. Nous passons aux protestants. Nés au XVIe siècle avec la Réforme, les protestants ont voulu revenir à l'essentiel de la foi chrétienne, la Bible et la Bible seule, la foi seule, la grâce seule, ce qu'on appelle les trois solas, sola scriptura, la Bible, sola fides, c'est la foi qui sauve, sola gratia, on ne peut compter que sur la grâce. Ils rejettent l'autorité du pape, n'acceptent généralement, ça dépend des confessions, mais généralement ils n'acceptent que 2 sacrements, le baptême, et non pas ce que les catholiques appellent la messe, mais ce que eux appellent plutôt la scène, et qui sont généralement vécus plutôt comme des signes symboliques de la foi. Pour eux, chaque croyant peut lire la Bible, enfin les orthodoxes et les catholiques sont d'accord, mais pour eux, chaque croyant peut légitimement interpréter la Bible, là encore, les catholiques et les orthodoxes seraient d'accord, mais même sur des versets problématiques, voire difficiles à interpréter. Et là, pour le coup, les catholiques et les orthodoxes disent non, là, il y a aussi une interprétation communautaire à laquelle on demande à tout le monde d'adhérer. Bon, là, pour eux, pour les protestants, chaque fidèle est à lui-même son propre magistère. La liturgie est souvent plus simple. Il n'y a pas aussi d'intercession pour les saints ou pour la Vierge Marie. Enfin, les protestants, c'est relativement différent des catholiques et des orthodoxes de l'autre. Bon, c'était un peu rapide, mais ça vous permet quand même d'avoir quelques repères entre catholiques, orthodoxes et protestants. Nous passons maintenant à l'évangile du jour et à son commentaire. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. Dans un monde où tout semble nous diviser, les idées qui s'opposent aux idées, la gauche contre la droite, les peuples, les générations, les anciens contre les nouveaux, parfois même dans les familles et, encore pire, entre chrétiens. La division entre chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants, et là-dessus, il y a une prière que nous ne pouvons pas ignorer. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle du Christ lui-même que vous venez d'entendre, la dernière prière, le dernier renseignement qu'il a donné à ses disciples avant de mourir pour eux. Juste avant de mourir, sa dernière prière, deux points, ouvrez les guillemets, « Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. » À chaque fois que moi, frère Paul-Adrien, j'entends cette prière, je pense à la déchirure du corps du Christ, à ce qui nous sépare, à ce qui nous oppose à nos frères chrétiens divisés. Et il y a là un scandale. On dit que dans la tunique protocolaire du pape, il y a ce qu'on appelle le pallium. Le pallium, c'est une écharpe, je ne sais pas comment il faut dire, honorifique quand on est archevêque, que vous mettez autour du cou. Et le pallium du pape porte 5 clous qui représentent les 5 plaies du Christ, qui représentent l'Église déchirée. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et bien, cette prière de Jésus-Christ n'a rien perdu, ni de sa douleur, ni de son scandale, ni de sa puissance, mais nous avons la certitude que si Jésus l'a dit, Dieu a le pouvoir de l'exaucer. Nous avons la certitude qu'un jour, l'Église sera réunie. En attendant, l'unité des chrétiens, ce n'est pas une option pour plus tard. Ce n'est pas une question de diplomatie ecclésiale qu'on va laisser uniquement à Rome ou de pieuses assemblées théologiques. C'est quelque chose que nous allons faire. Une urgence spirituelle, une urgence missionnaire, une urgence du cœur, parce que tout simplement, on ne peut pas laisser cette prière du Christ inaccomplie. Il est là le plus grand scandale. Parce que ce que le monde attend, on va le dire plutôt comme ça. Ce que le monde attend, c'est pas forcément que tout de suite, là, maintenant, les chrétiens s'entendent parfaitement sur tous les dogmes. On va laisser ça pour le règne à venir et la fin des temps. Mais déjà, ce que le monde pourrait attendre là, maintenant, c'est qu'à défaut d'avoir une pleine communion dogmatique, on puisse déjà au moins se respecter et s'aimer. Les protestants vont peut-être rester protestants, les orthodoxes peut-être vont rester orthodoxes, mais nous, nous resterons catholiques en les respectant, en les aimant et en les reconnaissant comme frères. Et si déjà, entre nous, les catholiques arrivaient à aimer les protestants et que les protestants arrivaient à aimer les catholiques et qu'on arrivait à témoigner ensemble de celui qui nous unit malgré nos différents Jésus-Christ, eh ben ce sera peut-être déjà pour notre génération, notre manière à nous d'accomplir cette prière du Christ. Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Alors vous allez me dire, comment faire ? Ben, il y a peut-être des choses très simples à faire. Par exemple, dans le service des pauvres, on peut tout à fait être unis, on peut tout à fait mettre nos dogmes de côté, nos inimitiés et nos histoires. Quand il s'agit de s'occuper d'un enfant abandonné, d'un réfugié, d'un malade ou d'un sans-abri, elles valent quoi nos étiquettes confessionnelles ? Elles valent pas grand-chose, elles tombent. Il reste quoi ? Il reste l'amour. Un amour vécu ensemble, une charité vécue ensemble dans une mission commune. Eh ben moi, c'est peut-être fleur bleue et sentimentale, mais l'œcuménisme à travers le service des pauvres, j'y crois. Et puis encore une, tiens, que j'ai appris dans mes pérégrinations en Arménie, au Liban, c'est que quand vous êtes martyrisé, quand vous êtes persécuté dans le monde, quand vous êtes au Pakistan et que vous en prenez plein la figure parce que vous êtes chrétien, vous imaginez bien qu'en face de vous, personne ne vous demande si vous êtes catholique, orthodoxe ou protestant. On ne meurt pas pour une étiquette, on meurt parce que nous sommes chrétiens. Et que dans le martyre, protestants, orthodoxes et catholiques sont unis. Unis dans le même sang, dans la même fidélité. Eh bien, vous voyez, ce souvenir des martyrs protestants, ce souvenir des martyrs orthodoxes et vouloir imiter les martyrs catholiques, c'est déjà là aussi une manière d'être unis et d'accomplir pour nous la parole et la prière du Christ. Et puis encore une, tiens, ça aussi, en s'intéressant aux autres, en s'intéressant à ce qu'il peut y avoir de beau dans la tradition orthodoxe, il y a des liturgies qui sont magnifiques, en s'intéressant sur ce qu'il peut y avoir de beau dans la tradition protestante, il y a un témoignage parfois décomplexé, parfois peut-être même un peu trop décomplexé du Christ, mais qui est beau. Et donc dans chaque tradition, il y a des belles choses, il y a aussi des blessures, il y a aussi des histoires douloureuses, mais il y a des choses qui nous font peut-être secrètement envie. Et trop souvent, nous ignorons ce que vivent nos frères d'autres traditions. Et bien ça, déjà, s'intéresser aux autres, c'est une belle manière de faire de l'œcuménisme. Et puis, encore une autre, tiens, en s'intéressant à sa propre tradition, parce que moi, ce que je crois aussi, c'est que les autres sont venus protestants ou sont devenus orthodoxes. C'est pas parce que nous étions trop catholiques qu'ils se sont séparés de nous. C'est parce que nous ne l'étions pas assez. Donc, je suppose que il faut que nous redécouvrions ensemble ce que signifie que ce mot de catholique. La beauté de la liturgie, la sagesse des saints, la profondeur des sacrements, la fidélité à l'Église primitive. Autant de trésors que, en redécouvrant, nous donnerons peut-être envie aux autres de vivre. Bref, vive l'Église et prions pour l'unité des chrétiens. Eh bien, c'est la fin de cette chronique spirituelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche.
Retrouvez le frère Paul-Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.